Jean-Claude Guillebeau, le nouveau livre que vous venez d'écrire s'appelle « La vie vivante ». Vous citez dans votre livre les dangers du courant transhumaniste.
C'est un courant qui existe depuis assez longtemps aux États-Unis et auquel, malheureusement, trop peu d'intellectuels en Europe se sont intéressés. Qu'est-ce que c'est que le post-humanisme ? Ça désigne une chose très simple. Ces gens-là pensent que les progrès de la science et de la technologie nous permettent aujourd'hui d'améliorer les performances d'un être humain. C'est-à-dire d'améliorer non seulement ses performances physiques, en lui greffant par exemple ce qu'on appelle un exosquelette qui peut résister aux chocs et aux brisures, mais aussi ses performances intellectuelles, en lui installant à l'intérieur du cerveau des microprocesseurs qui augmentent ses capacités de réaction, sa mémoire, etc. Autrement dit, ces gens défendent l'idée d'un homme amélioré et ils en concluent que nous devons renoncer une fois pour toutes à notre vieille idée de l'humanisme. Nous devons, d'une certaine façon, dépasser la condition humaine et accepter que les hommes de demain soient un mix entre la machine et l'organique. D'où le mot qu'ils mettent en avant, le mot de cyborg, qui est une contraction entre cybernétique et organique et qui défend l'idée d'un homme amélioré. Alors pourquoi je trouve ce projet redoutable, terrifiant ? Si vous acceptez que nous fabriquerons demain des hommes améliorés, ça veut dire que vous acceptez qu'il y aura demain des surhommes et des sous-hommes. Évidemment, ça nous rappelle quelque chose. Nous acceptons l'idée que, au fond, l'humanité sera brisée en deux. Depuis la défaite des nazis, nous pensions qu'elle était devenue dans notre esprit définitivement indivisible, c'est-à-dire qu'un handicapé mental avait autant de droits et de dignité humaine qu'un professeur de biologie. Tout d'un coup, le post-humanisme ouvre une brèche dans cette conviction et imagine à nouveau l'humanité comme étant partagée entre humains plus ou moins performants et humains plus ou moins supérieurs. Et j'ai trouvé, en examinant cette quantité de livres et de textes, j'ai trouvé une interview affolante d'un de ces technoprophètes qui défend le post-humanisme. Et il y a un journaliste américain qui lui pose la question « Mais si nous faisons demain des hommes améliorés, si nous arrivons à en faire 10 000, 100 000, peut-être même 1 million, que ferons-nous des milliards d'êtres humains qui, eux, n'auront pas été améliorés ? » Et il fait cette réponse glaçante. Il dit « Mais les dinosaures ont bien disparu. » Autrement dit, il y a le resurgissement d'une pensée barbare, terrifiante, totalitaire, au cœur même de la science. Sans compter que règne aussi, dans les textes qu'on peut lire de ces gens, un projet d'échapper à la mort. C'est-à-dire, il y a clairement une utopie d'immortalité, de rejet de la finitude humaine. Alors à mes yeux, c'est notre finitude qui nous définit comme être humain.
Quelle est pour vous la joyeuse incarnation que le christianisme apporte ?
Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Donc on devrait être, face à tout cela, on devrait opposer notre joie incarnée. Il y a tout de même au cœur du christianisme cette idée que le Verbe s'est fait chair et que le Christ est devenu humain. Il est descendu parmi nous, il s'est incarné. Vous savez, dans le haut Moyen-Âge, dans les églises chrétiennes, il y avait des représentations du corps humain joyeux qui choquaient les envahisseurs germains, les tribus germaniques, qui étaient eux païens et qui étaient beaucoup plus effrayés. Il y a une volonté de montrer joyeusement la splendeur du corps que, à mon avis, l'Église a quelquefois oublié. Je lis souvent des auteurs chrétiens du XXe siècle, et je me suis aperçu que de Bernanos à Emmanuel Mounier et en passant par quantité d'autres, qui se sont désolés au cours des dernières décennies que l'Église, un petit peu crispée sur son jansénisme, elle oublie le message joyeusement charnel dont elle était porteuse.